Le journal vous est présenté par Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. Le deuxième jour du procès Monsanto à La Haye, un procès citoyen avant tout symbolique, permettant aux militants qui l'organisent de démontrer la nocivité et la dangerosité de l'agrochimie. Le reportage à suivre de Véronique Robérotte. En France, le retour de la manif pour tous aujourd'hui. Le cortège parisien s'élancera en tout début d'après-midi pour défendre une vision traditionnelle de la famille et pour se compter dans la perspective de l'élection présidentielle. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, se prépare. Il prononcera un discours ce matin dans le cadre de la convention de son mouvement, la France Insoumise. On y revient dans ce journal avec Sophie Delpont. Le procès du géant de l'agrochimie Monsanto se tient en ce moment à La Haye, procès symbolique et citoyen sans valeur juridique, uniquement destiné à attirer l'attention sur les ravages provoqués par les produits de la multinationale, d'après les organisateurs. Hier, c'était le premier jour d'audience. Plusieurs dizaines de victimes, d'avocats et de chercheurs du monde entier se sont succédés à la barre pour témoigner. Sur place pour France Culture, Véronique Robérotte.
Déterminée mais tremblante, dans sa longue robe noire marquée d'un cœur rouge, Sabine est la première à témoigner. Au juge, cette éleveuse de chevaux dans l'Isère distribue des photos de Théo, son fils, pour mettre, dit-elle, un premier visage sur une victime de Monsanto. Théo était encore dans le ventre de sa mère à l'état de fœtus quand il est gravement intoxiqué par du Roundup utilisé pour désherber le centre équestre. Sur les bidons de ce glyphosate, pas plus de précautions d'usage, dit Sabine, que celles que l'on trouve sur du produit vaisselle, rien pour alerter les femmes enceintes. Exposé au moment où l'œsophage et la trachée se forment, Théo naîtra avec de multiples malformations. À 9 ans, il subira sa 51e opération la semaine prochaine. Suivront une longue série de témoignages de victimes de l'agrochimie. Elles viennent du Sri Lanka, des USA, du Bangladesh, de l'Argentine, du Brésil. Tous racontent les maladies, la contamination de leurs champs par les OGM, le lobby de Monsanto dans leur pays, ces plaintes qui n'aboutissent jamais quand ils osent aller devant la justice, ce qui est rare. Trop dangereux pour le porte-monnaie. Prouver le lien entre maladie et pesticides est difficile. Au tribunal Monsanto, ce lien de cause à effet paraît pourtant faire peu de doute.
Véronique Robérotte. Mieux vaut arrêter les frais à Notre-Dame-des-Landes. Déclaration ce matin de Ségolène Royal à propos du projet de nouvel aéroport nantais, toujours très contesté. La ministre de l'écologie s'exprime dans le journal du dimanche, une nouvelle fois en contradiction avec la ligne gouvernementale. Elle déclare être prête à donner du temps pour sortir par le haut de cette situation, estimant qu'il y a actuellement d'autres priorités pour la nation que la construction d'un nouvel aéroport à 1 milliard d'euros. Mobilisation modeste hier des anti-CETA et anti-TAFTA. Plusieurs cortèges étaient organisés dans les grandes villes françaises pour dire non aux deux grands traités de libre-échange actuellement en négociation entre l'UE et les États-Unis pour le TAFTA et le Canada pour le CETA. Le CETA dont la signature est prévue le 27 octobre à Bruxelles. Cette semaine, le Parlement wallon a opposé son veto à la ratification par la Belgique de cet accord. Et ça rassure un peu Laure, 30 ans, juriste en droit international, Laure que Sarah Maquet a rencontré hier dans le cortège parisien.
C'est pas du tout démocratique, c'est quelque chose qui est complètement discuté dans l'opacité. C'est parce que personne n'a accès aux documents de négociation, comme vous savez, c'est dans des chambres fermées, auxquelles personne n'a droit d'accès, pas le droit de photo, pas le droit de prendre des notes, qu'est-ce que c'est? Et je suis particulièrement contre la mesure qui consiste à mettre au point des tribunaux arbitraux, qui permettront aux entreprises d'attaquer les États pour lesquels ils estiment que les frontières ne sont pas assez ouvertes, les barrières douanières sont trop élevées. J'attends du gouvernement non seulement qu'il se retire des négociations, qu'il pèse de tout son poids dans l'Europe aujourd'hui. Bon, l'Europe, c'est un engagement politique, c'est une vision géopolitique. Le monde, dans 30 ans, aura besoin d'un bloc fort, et ce bloc fort doit se défendre. Je ne suis pas du tout anti-américaine, j'ai rien contre nos amis américains, mais ils ont des entreprises qui ont des pratiques qui sont pour le moins contestables sur notre continent. Il faut leur montrer qu'ici, ce n'est pas juste un marché supplémentaire, qu'on a des valeurs qui ne sont peut-être pas les leurs, que ce qu'ils laissent faire dans leur pays, qui est le pays du libéralisme outrancier, c'est leur choix et leur droit. Ce n'est pas pour ça que le monde doit être à leur image.
États-Unis, Canada, même règles.
Absolument. Pour moi, c'est exactement la même chose, ce sont les mêmes règles. De toute façon, on n'a pas plus d'informations sur l'un que sur l'autre. Pareil, j'ai rien contre les Canadiens, c'est juste soyez libéraux si vous le souhaitez. Pas chez moi, pas en mon nom en tous les cas.
Des propos recueillis par Sarah Maquet. La Manif pour tous va tenter de trouver un nouveau souffle aujourd'hui dans les rangs d'un nouveau cortège parisien. 2 ans après sa dernière manifestation d'ampleur, le mouvement né du refus du mariage pour tous en 2012 se place clairement dans la perspective de l'année présidentielle et appelle à lutter contre les nouvelles offensives du gouvernement contre la famille et la filiation. Il s'agit aussi bien sûr pour les militants de la famille pour tous de se compter, Béatrice Duguay.
Opération séduction pour le FN. À la manœuvre, l'aile dure du parti, bien ancrée à droite, celle qui s'oppose sur les valeurs à Florian Philippot, lui qui considère que le mariage pour tous est aussi intéressant que la culture du bonsaï. Présent donc hier, Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, qui n'a jamais coupé avec les traditionalistes, et le député Gilbert Collard, fidèle de la très catholique Marion Maréchal Le Pen.
Sur la loi Taubira, on est le seul parti, il n'y a pas de doute, qui abrogera cette loi, je l'ai dit, avec bien sûr la préservation des droits acquis et avec bien évidemment un renforcement des droits pour les homosexuels qui méritent de vivre en paix.
À la tribune, les invités, eux, sont moins nuancés. Haro sur le subversif lobby LGBT qui influence Bruxelles et Paris pour imposer la GPA, la coparentalité, la théorie du genre. Un père, une mère, retour à la famille française traditionnelle. Agnès Marion, présidente du Cercle Fraternité, lancée hier par le FN.
L'Union européenne justifie les flux migratoires par notre dénatalité, en fait. Donc, effectivement, contre l'immigration, une politique nataliste nous paraît vraiment une mesure à mettre en place et à enclencher assez rapidement.
Et pour la première fois cet après-midi, le Front National défilera derrière sa propre bannière.
Voilà, sur la thématique politique de la famille, c'était un reportage d'Aurélien Colli et non pas le sujet de Béatrice Duguay annoncé. DG de cocktail Molotov sur les forces de l'ordre et 8 voitures brûlées hier à Bastia. Une manifestation de nationalistes corses a violemment dégénéré. Il s'agissait de protester contre une condamnation par la cour d'assises spéciale de Paris de plusieurs nationalistes suite à un attentat à la voiture Bélier commis contre la sous-préfecture de Corté en avril 2012. 4 morts cette nuit à Angers lors d'une fête de pendaison de crémaillère. 10 autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. Elles se trouvaient sur un balcon au 3e étage d'un immeuble de construction récente dans le centre-ville. Le balcon a cédé. D'après la préfecture du Maine-et-Loire, les victimes sont toutes âgées d'une vingtaine d'années. François Hollande doit se représenter, estime Jean-Luc Mélenchon ce matin dans les colonnes du journal du dimanche, se représenter pour accepter la sanction démocratique, ce qui empêcherait, selon Mélenchon, un tour de bonneteau, le remplacement du président impopulaire par un autre socialiste. Le leader de la France insoumise se dit dans l'interview qu'il accorde à nos confrères central dans l'élection à venir et il aura probablement l'occasion de le redire aujourd'hui à Saint-André-les-Lilles dans le cadre de la convention qu'il tient avec son mouvement. Sophie Delpont.
L'objectif, c'est de montrer la capacité à rassembler autour d'un programme en mettant en avant la démocratie participative. Après le discours de Toulouse du 28 août dernier, où Jean-Luc Mélenchon avait fait sa rentrée politique et son entrée dans la campagne, il devrait maintenant détailler le fond de son projet pour la présidentielle. Les 2/3 des militants attendus ont été tirés au sort parmi les insoumis qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Le dernier tiers est constitué par des personnalités du monde associatif, notamment des syndicalistes, quelques communistes dissidents, des ouvriers de Florange et on devrait y voir aussi Rémi Garnier, le lanceur d'alerte de l'affaire Cahuzac. Pour acheminer les militants, 9 bus ont été affrétés, effectuant 32 arrêts partout en France. Sur place, le village des volontaires les attend avec des stands dans lesquels ils peuvent entre autres enregistrer des vidéos pour dire quelles mesures, parmi les 60 qui sont soumises au vote ce week-end, ils souhaitent soutenir en priorité. Après le vote, les résultats de la consultation seront synthétisés et présentés sous forme de 10 mesures principales avant le discours de Jean-Luc Mélenchon. À la tribune, il tentera de renouer avec l'élan qu'il avait su créer lors de la campagne de 2012.
À l'étranger, en Syrie, les pourparlers russo-américains hier à Lausanne autour de la situation sur le terrain n'ont rien donné comme on pouvait s'y attendre. Les discussions ont duré 4 heures dans une ambiance tendue, n'ont donné lieu à aucun communiqué. En parallèle, en Irak, la bataille de Mossoul se prépare, elle est imminente et dans la deuxième ville du pays, 1,5 million de personnes sont désormais confrontées au dilemme suivant. Faut-il fuir avant la bataille ou bien rester, Jérôme Jadot?
Sur les ondes d'Al-Rad Radio, qui émet à destination des habitants de Mossoul, voilà le message que l'on entend à l'approche de l'offensive.
Le conseil, c'est de ne pas sortir. Restez chez vous. C'est un acte de résistance.
Une invitation pressante initiée notamment par l'ex-gouverneur de Mossoul qui avance un motif humanitaire, pas assez de place en camp. Le Haut Commissariat aux réfugiés en prévoit 7 fois moins que le million de déplacés envisagés. Raison militaire également, avec une ville qui serait mieux contrôlée par l'État islamique en cas d'exode. À en croire le général irakien Al-Jibouri qui dirige l'offensive, les civils seraient quasiment hors de danger dans la ville.
On compte beaucoup sur les forces de la coalition pour détruire Daesh sans nuire aux populations civiles. Nous, nos forces sont désormais entraînées pour les combats de rue. On préfère donc que les habitants restent dans la ville.
Sauf que pour le HCR, on ne peut pas décider à la place des populations. Frédéric Cussic dirige le bureau d'Erbil.
Quand on ne vit pas ça, donner des conseils, ça me paraît presque déplacé. La seule chose qui semble à peu près entendue, c'est qu'il y a une très forte densité de population, donc le risque de victimes civiles est énorme.
Des civils pour lesquels le dilemme pourrait bien se résumer à risquer sa vie en restant dans la ville ou bien en la quittant.
Un temps maussade, nuageux et parfois pluvieux aujourd'hui, notamment sur la Bretagne et l'ensemble du Nord-Ouest. Même chose pour le pourtour méditerranéen et pour une partie du Massif central. Ailleurs, des éclaircies seront possibles. Température cet après-midi de 16 à 21 degrés sur la moitié nord et de 17 à 24 degrés sur le sud.